Je voulais quand même vous dire, je ne suis pas théologien, ça vous le saviez déjà. Je ne suis pas historien, vous le saviez aussi peut-être.
C'est quoi ?
Je suis laïc franciscain. Donc ça veut dire que je vais vous témoigner un petit peu ce que je vis dans la fraternité franciscaine depuis quelques années. Voilà, en sachant que je suis ministre de la fraternité Sainte-Claire. Alors attention là aussi, hein, ministre ça veut dire serviteur. Serviteur du lien fraternel en fait, hein, chez les franciscains. Parce que sinon, c'est un terme un peu ronflant, je trouve. Il faut user avec modération de ce terme-là.
Voilà. Je suis responsable.
Voilà, je suis responsable. De la fraternité Sainte-Claire qui se réunit, en fait, chez nos sœurs Clarisse à Toulouse, avenue de Saint-Exupéry, que Jean-Claude connaît bien. Et voilà, et donc, on chemine, avec Anne-Valérie, on s'est engagé dans l'ordre franciscain séculier, nous, donc, en 2012. On était sur Orthès. Depuis, moi, j'ai pas lâché le lien de la fraternité. Ça s'est fait dans différentes villes parce qu'on a pas mal bougé. Et donc aujourd'hui, c'est à Toulouse. Alors comme je suis pas trop à l'aise, que j'ai jamais fait cet exercice, j'ai pris mon polycope et je me suis dit, ça sera interactif, comme on dit, hein, si vous voulez bien éventuellement regarder. Et puis je vais vous parler de la règle, en fait. Et puis ce que je pense aussi, c'est que tout ce que je vais vous dire, en fait. Je pense que vous allez vous y reconnaître parce qu'on partage un même trésor, c'est l'Évangile. Et donc, la règle de l'ordre franciscain séculier, c'est passer de la vie à l'Évangile et de l'Évangile à la vie. Et c'est ce qu'on s'applique à faire, entre autres, à la famille de la Sainte Trinité, mais c'est ce que font en général tous les chrétiens qui sont amoureux de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous en avez... Tiens.
On a encore
une assez.
Ouais. Attends pour Jean-Claude.
Il n'y en a pas assez.
Alors pour vous dire aussi en introduction, donc je me suis essentiellement appuyé sur ce qui existe dans l'OFS, c'est des parcours de formation initiale. Pour rentrer dans l'ordre franciscain séculier, il y a une sorte de noviciat, on va dire, en fait, qui dure en principe au moins un an, et qui est une approche de la règle et pour qu'on puisse s'imprégner de l'esprit de François et de Claire. Et après, il y a un petit bouquin aussi que je recommande, que moi j'ai pas mal compulsé, quand on voit l'état du bouquin, ça se voit. Émerveillement et minorité, qui, quand on veut comprendre un peu ce que vit un laïc franciscain, c'est vraiment très bien expliqué dans ce bouquin. Pour vous parler de la fraternité laïque, je vais vous donner un petit peu quels sont les grands axes qu'on se donne comme projet de vie. On parle de projet de vie, on parle de règles. En fait, on a vraiment une règle, puisque c'est un ordre à part entière, en fait, l'ordre franciscain séculier. Il y a, bon, là, je parle sous couvert de Jean-Claude et Jean-Louis, hein, mais dans l'ordre franciscain, dans le mouvement franciscain, il y a trois ordres. Il y a le premier ordre, dans lequel font partie les frères, dont les capucins dont nous a parlé Jean-Claude. Ensuite, il y a le deuxième ordre, ce sont nos sœurs Clarisse. Et le troisième ordre, ensuite, vous y retrouvez notamment les séculiers, c'est-à-dire les laïcs qui vivent dans le monde. Donc, je vais vous donner un petit peu quels sont les axes de vie qu'on s'est donnés. Donc, le premier axe de vie, c'est l'appel à vivre l'Évangile. Voilà, donc vivre sa foi dans la simplicité, se garder émerveillé par Dieu. L'émerveillement est une action de grâce et accueillir la pauvreté évangélique. Ensuite, vivre l'Évangile en fraternité. Donc... le premier don qu'on reçoit du Seigneur dans le charisme franciscain, c'est celui des frères. C'est la première grâce en fait qui nous est donnée. Et en fraternité, en fait, c'est vraiment le lieu de notre sanctification collective aussi. Et moi, j'ai expérimenté souvent qu'en fraternité, je recevais des réponses à des choses très personnelles et qui sont en fait amenées par les frères sans que forcément on pose les questions directement, de façon un peu providentielle, on va dire. Donc, c'est pour ça que moi, l'expression « sacrement du frère », ça ne me choque pas. Ça correspond effectivement à une grâce et un don de Dieu qui est reçu et qui est vécu particulièrement dans le charisme franciscain. Donc, on verra qu'après, effectivement, dans l'OFS aussi, c'est un mouvement qui nous appelle à nourrir notre vie spirituelle en découvrant la personne vivante et agissante du Christ. Et le cœur aussi du charisme franciscain, c'est le travail de conversion. C'est l'appel à la conversion. En raison de notre vocation, animer du dynamisme de l'Évangile, conformer notre façon de penser et d'agir à celle du Christ par ce changement intérieur radical que l'Évangile appelle conversion. Bon, voilà. Alors bien sûr, vous pouvez intervenir si vous voulez, on peut voilà, parce que, pour arrêter, compléter, éventuellement, voilà. Alors j'ai mis en exergue de l'introduction quand même une citation de Saint Jean-Paul II. Au début j'avais mis Jean-Paul II, puis après je me suis dit non, maintenant c'est Saint Jean-Paul II en fait. Voilà. Aimez, étudiez, vivez la règle de l'ordre franciscain séculier, elle est un trésor déposé entre vos mains par l'Église. Donc c'est une invitation de Jean-Paul II effectivement qu'on peut accueillir. Voilà. Donc l'idée c'est que nous, en tant que laïcs séculiers, c'est-à-dire vivant dans le monde, effectivement on peut accueillir cette expérience du charisme de François dans notre vie de baptisé, voilà, tout simplement, en recevant effectivement cet appel à mettre en œuvre ce projet de vie. Voilà, qui la particularité, c'est que cette proposition de vie, elle remonte à l'époque de François d'Assise. Bon, je pense que ce que je vous dis là, vous le savez déjà sans doute, hein, donc, mais effectivement, c'est quand même... en fait, on fait partie d'un ordre qui a quand même 800 ans d'histoire. On l'a vu ce matin en écoutant l'histoire des franciscains, hein, mais il y a aussi cet enracinement, cette historicité de l'ordre qui est vraiment une grande richesse pour nous, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que François a
ça? Alors, ben, en fait, on parle toujours de la rencontre de François avec Lucchesio et son épouse Buonadonna.
Ah oui.
Ouais. Donc, dans le Val d'Esta, en Toscane, en Italie, un marchand ambitieux et sans scrupules, Lucchesio et son épouse, alors moi je ne le dis pas bien, il faudrait que ce soit Jean qui nous le dise, Buonadonna, je pense, en italien. Buonadonna, voilà. Entendent prêcher François, se convertir et voulu vivre l'évangile. C'est alors que leur vie changea totalement. Voilà, François avait passé la nuit à prier avec eux. Et donc ensuite, ils se sont appelés à vivre de cet appel d'une vie évangélique, tout en restant mariés et dans le monde, ce qui est la particularité du tiers ordre. Voilà. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'occasion d'un voyage qu'on avait fait à Assise avec Anne-Valérie, on avait rencontré des fraternités du village où était né l'ordre franciscain séculier. C'est ce qu'il y a de bien quand on va en Italie, c'est qu'on a l'impression qu'on touche presque François du doigt. Son souvenir est tellement conservé, enfin, est tellement présent, et puis en fait, l'Italie, c'est presque un musée à ciel ouvert. Et ils ont vraiment, surtout les franciscains dans les lieux saints franciscains, ils ont gardé la trace du passage de François, c'est très émouvant.
Je vais t'interrompre juste une seconde, c'est anecdotique, mais Lucchesio, là, c'est un ancêtre d'un diacre de Toulouse qui vient de décéder, qui s'appelait Luigi, Meluigi, et c'est Lucchesio, il était sur son descendant.
Ah d'accord, c'est incroyable.
Il avait le rappel, Luigi.
D'accord. Ah d'accord, ok, super. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vraiment la règle qui nous est donnée, moi je considère que c'est vraiment un trésor dans l'Église, elle est vraiment approuvée par les papes en fait. Il y a toujours ce lien dans le mouvement franciscain d'approbation et de soutien du pape, quoi. Et la règle, en fait, qu'on reçoit aujourd'hui, elle date de 1978. Voilà. Donc, effectivement, il ne faut peut-être pas faire trop d'allergie avec le mot de règle. Ça, c'est le gros problème dans les fraternités... Enfin, c'est pas un problème, mais dans les fraternités séculières, on a quand même beaucoup de membres qui ne font pas la démarche de l'engagement, c'est-à-dire... en fait, c'est une consécration. C'est vraiment une célébration qu'on a. On a un rituel, etc. et tout. Et il y a beaucoup de sympathisants de François, mais il y a des gens, effectivement, pour qui c'est toujours le débat. Nous, on veut bien vivre dans le charisme de François, mais on veut pas s'engager, parce que l'engagement ci, l'engagement ça... Bon, enfin, bref. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Claude sur la question de la sécularisation à une certaine époque contemporaine, qui a un peu peut-être effrayé les gens par rapport à ça, quoi. Bon. Donc si on ne veut pas dire règle, on parle de projet de vie, mais en fait on parle quand même de la même chose, c'est-à-dire c'est essayer de conformer notre vie à l'Évangile. Voilà, donc centrer toute notre existence sur le Christ, s'engager à vivre de sa bonne nouvelle, elle est une synthèse exceptionnelle du charisme franciscain. Donc le point de départ, c'est l'appel bienveillant de Dieu, et le but à atteindre, c'est la joie d'une union comblante avec lui. Entre les deux, elle indique le chemin, l'Évangile de Jésus. Notre chemin, c'est vraiment l'Évangile, sa personne, son message, ce qu'il faut faire et comment le faire. Voilà. Donc effectivement, bon, après, sans rentrer dans les détails, il y a trois parties dans la règle. Mais moi, je trouve que c'est bien la règle parce que quand même, de temps en temps, ça sert de memento. C'est-à-dire que c'est bien de temps en temps de reprendre notre règle, nos articles. Alors vous verrez que dans le petit topo, j'en ai pris quelques-uns, articles, pour vous donner un petit peu la saveur de ce que c'est. Mais ça permet, ben, de... de mesurer un petit peu les écarts qu'on peut prendre parfois avec nos engagements de baptiser, de vie évangélique, etc. Et puis c'est vrai que, bon, c'est pas que je veux absolument faire de la pub pour la règle de l'OFS, mais c'est vrai qu'elle est quand même super, super bien écrite, c'est très très beau, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a une explicitation des différentes sources de notre vocation. C'est effectivement un véritable ordre qui existe au niveau international, qui est très structuré. Alors des fois, c'est un petit peu le côté lourd dans les fraternités, c'est que on fait fonctionner les fraternités un peu avec un support aussi associatif. Donc ça, parfois, c'est un peu compliqué, mais bon. Effectivement, ce que tu disais aussi ce matin, ça me parle beaucoup, c'est-à-dire que dans notre charisme franciscain, on est toujours partagé entre l'institution et le charisme, l'institution et l'intuition, en fait. Et je pense que c'est inhérent à François, ça, à son expérience. Parce que l'appel à la vie évangélique, il est tellement radical que, de toute façon, c'est difficile, effectivement, de l'incarner à 100%. Et on est toujours tiraillé entre des tensions, voilà. Donc notre règle, elle est bien aussi parce qu'elle nous donne des moyens pour vivre cet appel à la charité parfaite. Et le point très très important sur lequel moi j'insiste toujours, c'est la façon collective de se sanctifier, c'est la fraternité. C'est pas innocent, c'est pas anodin. C'est vraiment le chemin de sainteté, la fraternité. Comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un don de Dieu et c'est un chemin de conversion profonde parce que il y a beaucoup de choses qu'on doit raboter, en fait, dans une fraternité aussi. J'essaye de vous dire un peu comment ça se passe. Il y a tous les milieux sociaux, il y a tous les âges, ben, comme nous, en fait. Hein. En fait, on est en fraternité, ici aussi. Hein. Donc, c'est pareil, hein. Puisqu'on est franciscains. Donc, c'est pour ça que je vous disais que tout ce que je vous dis, en fait, vous le savez déjà, mais ça donne la petite touche au FS, quoi. Dans nos fraternités, il y a vraiment de tout le monde, il y a des gens en grande difficulté, donc il y a des moments des fois aussi un peu compliqués, parce que, on est appelé, mais on ne s'est pas forcément choisi sur nos CV, donc voilà. On partage beaucoup de souffrances. Si vous voulez, je vous dirai comment c'est le déroulement d'une fraternité, mais il y a toujours un partage de vie qui est très important. C'est-à-dire, l'idée, en fait, c'est le chemin, c'est l'évangile, mais comment je l'actualise et qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que je perçois ou pas de l'appel du Seigneur, etc. Et donc, il y a de grandes souffrances qui sont partagées dans les fraternités. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile à porter. Je pense que l'OFS a fait un grand chemin aussi par rapport à la prière. Je pense que pour certains d'entre nous, vous avez peut-être connu des expériences de fraternité il y a quelques années. L'OFS avait un côté très militant, très action catholique, on va dire, en fait. Parce qu'effectivement, il y a chez François quand même un appel au service des plus pauvres, un appel à la charité aussi, qui doit s'incarner de façon concrète, et pas uniquement dans des choses un peu idéologiques, etc. et tout. Voilà. Et alors pour ceux qui, je sais pas, certains connaissent la revue Arbre, ça se voit très bien dans Arbre. Pour ceux qui connaissent la revue Arbre, il y a quelques années, moi en fait j'avais arrêté mon abonnement parce que c'était vraiment, ça manquait d'enseignement au niveau de la vie spirituelle, de la teneur spirituelle. Et d'ailleurs, ce que je trouvais pas dans ma fraternité, je le puisais ici en fait avec Jean-Claude, parce que les enseignements de Jean-Claude me nourrissaient beaucoup plus en thème d'appel à une vie mystique, voilà, etc. Bon, et maintenant, en fait, l'OFS a vraiment fait un grand chemin là-dessus. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il y a un chemin de conversion qui passe par cet idéal, en fait, d'une vie de prière régulière, etc. L'union à Dieu, on en parle dans nos statuts, etc. Enfin, c'est pas un gros mot, l'union à Dieu. C'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. Bon, voilà. Mais de toute façon, ignorer la place de la prière dans la vie de François, c'est juste passer à côté de François, parce que c'est central pour lui. Donc effectivement, voilà. Donc je cite un extrait du projet de vie. « La règle et la vie des franciscains séculiers est la suivante. Vivre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes. » Voilà. Dans la règle qu'il a donnée à ses frères, hein, donc ça c'est le testament, ce que disait Jean-Claude en parlait ce matin, François nous dit ça. « Après que le Seigneur m'eût donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le Saint-Évangile. Alors je fis rédiger un texte en peu de mots, bien simple, et le Seigneur Pape me l'approuva. De même, dans notre projet de vie à l'OFS, en fait, notre orientation et l'invitation essentielle, c'est de passer de l'évangile à la vie et de la vie à l'évangile. On a vraiment ce sentiment dans le cheminement franciscain que l'évangile suffit, en fait. C'est déjà un sommet, c'est déjà un Himalaya, l'évangile, quoi. Donc, ça fait un peu leitmotiv, hein, je me répète beaucoup. Je vais beaucoup dire évangile, en fait. Mais c'est parce que c'est juste que c'est central et c'est un cadeau très précieux que François nous fait, quoi. Alors, vivre l'évangile comme franciscain séculier, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, on pourrait dire quand même que tout chrétien et tout baptisé vit l'évangile. Donc, ce que je vais dire, c'est valable pour tout chrétien aussi, quand même. Voilà. Donc, en fait, la première question, c'est de passer de son projet au projet de Dieu. Et ça, en filigrane aussi, dans notre cheminement franciscain, quand je parle de conversion, beaucoup de frères parlent aussi de désappropriation. Et quand le travail intérieur se met en place, c'est aussi un travail d'élagage, on va dire. Élagage parce qu'à la fois, on essaye d'être en conformité avec la vie évangélique, mais aussi élagage de façon très concrète dans notre vie sur plein de choses qui nous paraissent indispensables, mais qui ne le sont pas, qui sont futiles. Et ça va aussi avec un appel à une vie sobre, à la sobriété, etc., qui découle du style de vie de François. Voilà. Et donc, c'est pas d'abord ce que je veux, mais c'est d'abord ce que le Seigneur attend de moi. Essayer de se rendre conforme à ça, en fait. Bon, alors, ça, c'est pas nouveau, mais effectivement, nous constatons que nous ne sommes pas dans un pays de chrétienté. Et donc, il s'agit de se situer à contre-courant d'un univers qui se construit et se pense sans référence à Dieu. Mais nous, comme François, la seule arme que nous avons pour vivre, c'est notre foi dans le Saint-Évangile. Je dis ça, toujours pareil pour illustrer un peu, mais nous, à Toulouse, là, on vient de vivre un truc incroyable qui a été un peu répercuté dans la presse, pour vous dire que vraiment, on n'est plus dans un monde chrétien, quoi. Enfin, ça paraît une évidence, hein, mais il y a eu un spectacle organisé par la Compagnie des Machines à Toulouse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Et voilà, c'est un témoignage un peu personnel, parce que même quand on en a parlé en frat, on n'était pas tous d'accord. Mais moi, j'en avais parlé avec l'archevêque, puisque l'archevêque vient à la maison Saint-Augustin, la maison de retraite des prêtres. Et lui, déjà, fin août, il m'avait dit son inquiétude. Il voulait absolument poser un acte public dans la sphère catholique pour dire son opposition à ce spectacle. Et la lecture qu'il avait, la lecture spirituelle qu'il avait de ce spectacle. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, en gros, la Compagnie des Machines, c'est une compagnie où ils font en fait des machines gigantesques. Il y en a une, ça représente un Minotaure. Il y en a une autre, donc ça représentait la dernière qu'ils ont fait, en fait, ça représente un démon qui s'appelle Lilith, qui est moitié araignée, moitié femme, enfin un truc un peu spécial. Et il y en a une autre, je sais plus, je crois que c'est une araignée, la troisième. Enfin bon, voilà, c'est ça. Et les affiches pour la promotion de ce spectacle, en gros, donc il y a ce démon qui crache le feu, et vous avez les églises de Toulouse qui sont en feu. Voilà. Et bon, bref, mais je vous disais juste ça parce que c'est évident qu'on est dans une société qui fait la promotion du spectacle. Et sous couvert de spectacle, en fait, qu'est-ce qu'on nous vend derrière? C'est vraiment un appel à des choses maléfiques, en fait. Enfin, bon, alors, moi, je vous avoue que dans ma fraternité, j'ai des frères qui voient juste un beau spectacle, en fait. Donc, il y a débat, hein, on pourra en discuter si vous voulez, mais bon, enfin, bref. Pour moi, c'est évident que quand Toulouse lance la promotion d'un spectacle pareil, c'est pas.
Jean-Claude tout à l'heure, le Minotaure, c'est le Minotaure qu'on voit. Et quand on pense que c'est aujourd'hui en fait Saint-Servin, qu'il a été traîné par un taureau.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Dans la rue du Tour qui monte à Saint-Servin, c'est quand même, je sais pas moi. Une honte, une insulte, quoi.
Genre, il ne voit pas ça.
Mais non, mais si on est chrétien,
oui,
le fondateur du diocèse, c'est Saint-Sernin.
Oui,
oui. Voilà, un aparté.
Voilà. Ouais, c'est vrai que.
C'est une culture transgressive en permanence.
Oui, volontairement.
Genre, choquer, casser,
tout
ce qui est.
Oui, et toujours après.
C'est diabolique.
Ah, mais monsieur, vous n'avez pas vu ça. Vous ne voyez pas.
C'est diabolique.
Oui, c'est ça.
L'image des Jeux Olympiques, on en a parlé hier.
Voilà, donc nous, on va s'accrocher à l'évangile. Alors, vivre sa foi. En même temps, dans notre expression de vie franciscaine, c'est revenir à des choses essentielles, mais super simples. Alors j'ai écrit les trucs en gros et super simple. Première proposition, Dieu est Père. Bon, on est tous d'accord. Deuxième proposition, nous sommes ses enfants. Tout le monde est d'accord. Troisième proposition, nous sommes donc frères et sœurs. Et on en arrive à l'idéal de vie évangélique avec l'appel à la fraternité. Donc comme celle de François d'Assise, Saint François d'Assise, notre vie devrait être celle d'un enfant de Dieu qui s'ouvre à l'émerveillement. Vie simple et pauvre, donc dans le détachement de soi, le détachement de son égoïsme, pour vivre à la manière de Jésus-Christ. Donc vivre sa foi, pour un franciscain séculier et pour un chrétien, on va dire, hein, c'est vivre une relation privilégiée à Dieu dans la prière, qui est une relation à Dieu libre d'égoïsme. C'est-à-dire, donc là après, je cite Celano, donc, hein, c'est un biographe de François. « Seigneur, dit François, que veux-tu que je fasse ?» C'est pas « Seigneur, fais ci, fais ça, puis ça serait bien que ça se passe comme ça, dans tel ordre, et voilà. » C'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Donc j'ai déjà à accueillir cette humilité en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est aussi dans l'Évangile, puisque donc notre modèle c'est Jésus. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et aussi, mon Père, dit Jésus, que cette coupe ne peut passer sans que je la boive. Si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ah, ça, c'est vraiment un mystère incroyable, cette humilité. Et puis cette scène-là, justement, du jardin de Gethsémani, par rapport à l'agonie du Seigneur, qui vraiment se dépossède complètement de la puissance qu'il aurait pu réclamer en tant que fils, quoi. Et qui va effectivement rentrer dans sa passion et qui accepte cette volonté du Père. Donc dans la prière, effectivement, être libre d'égoïsme, mais, et dans la pénitence, alors c'est pas un gros mot pénitence, parce que là aussi ça fait partie des mots entre règles et pénitence, déjà tu fais fuir la moitié des gens qui t'en parlent. Donc,
c'est vrai que sacrifice.
Sacrifice, et là c'est complet, là il n'y a plus personne.
Tribunal de la pénitence.
Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, normalement, les franciscains, nous, on est des pénitents. Hein. Donc, c'est une invitation, quand même. Donc, chacun la reçoit comme il peut. Ou
c'est
comme
le
il...
nom du tiers-ordre.
Voilà, c'est ça.
C'est
la pénitence. Oui, oui, oui. Et donc, ça veut dire qu'aussi, dans ma relation aux autres, j'essaye de me libérer de mon égoïsme, ce qui n'est pas simple. Et là aussi, il suffit d'écouter la parole de Dieu dans Saint Luc. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous outragent. Et après, bon, c'est des citations un peu courtes, hein, mais c'est pour ressaisir le sens. Veut-il faire un procès et prendre ta tunique ? Laisse-lui-même ton manteau. Donc, vraiment, ce profond respect que le Seigneur nous invite à avoir par rapport à nos frères et même ceux qui, effectivement, nous veulent du mal, ce qui est le plus compliqué. Donc, vivre l'Évangile, c'est, comme franciscain séculier, c'est vivre sa foi. Et deuxième point, c'est vivre dans la simplicité. Alors ça, je trouve que ça devient plus à la mode, par contre. Simplicité, sobriété, voilà, c'est plus accepté, on va dire, dans le discours sociétal. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique aussi que François nous offre. C'est accepter de nous débarrasser de tout ce qui est, de tout le superflu, pour essayer de, voilà, tout simplement de nous recevoir comme enfants de Dieu, dans la simplicité. Ça, je trouve que c'est vraiment un beau mot, simplicité. Il devrait y avoir plus de traités écrits sur la simplicité, sans le rendre compliqué.
Traité simple.
Voilà. Donc, le trait essentiel de la vie évangélique, à la manière de saint François d'Assise, c'est la simplicité évangélique. La simplicité qui accompagne la sagesse, c'est la bonne terre dans laquelle va venir croître la parole. N'étant pas ébloui par l'éclat d'un prétendu savoir, les disciples de Jésus discernent la lumière là où ceux qui croient savoir ne peuvent rien comprendre. Je me rappelle d'une amie qui écrit des bouquins sur saint François qui s'appelle Suzanne Guzipi-Testu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Suzanne. C'est une laïque franciscaine et qui a écrit plein de bouquins, qui vient d'en sortir un, là, d'ailleurs, bouquin sur saint François, qui fait des retraites, qui nous avait accompagnés à Assise, enfin qui accompagne beaucoup de gens qui sont en quête de François. Et je me rappelle, un jour, elle faisait une conférence à Orthez, chez les Clarisses. Et donc, elle faisait son topo, là, elle disait, enfin, bon, elle faisait bien, elle faisait une vraie conférence bien. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a essayé de lui chercher querelle à propos d'un truc, je sais pas. Enfin, c'est le gars qui lui fallait vraiment la référence, qui cadre, etc. et tout. Et Suzanne lui a répondu, mais je suis une idiota. Alors là, le type, il s'est arrêté. Il a pas compris pourquoi une idiota, etc. et tout. Et en fait, elle faisait référence à une parole de François, qui François se disait idiota, c'est-à-dire, alors moi, dans le lexique, je ne saurais pas trop le traduire, mais ça veut dire qu'il ne se réclamait pas d'un savoir savant, on va dire, quoi. Sa véritable sagesse, en fait, c'était l'amour de Dieu, la prière, la relation privilégiée qu'il entretenait avec les autres. Et voilà. Et bien, du coup, ça a vraiment jeté un froid. Et le gars, il a compris là où on voulait en venir, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'était pas Bac plus 10 qu'on préparait. C'était juste à essayer de se recevoir avec notre pauvreté, parce que il y a d'abord cette réalité, quoi, d'une grande pauvreté, d'une grande vulnérabilité, etc. et tout. Et ça fait partie de notre chemin de conversion. Voilà. Donc après, une vie simple, libre, détachée des possessions, ça passe bien sûr par les possessions matérielles pour lesquelles il faut rester vigilant. Ne pas trop thésauriser, voilà. Dans Saint-Luc, cette parole, je trouve aussi d'Évangile, elle résonne bien. Au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses richesses. Voilà. Il y a quelque chose qui me marque beaucoup aussi, je fais un aparté là, mais depuis que je travaille au service des personnes âgées, donc du grand âge, hein, je m'aperçois que ce travail de dépossession, arrivé à un âge, en fait, c'est juste qu'il est incontournable. Et effectivement... On voit les gens, en fait, pour qu'ils rentrent très naturellement dans ce mouvement, qui, effectivement, se débarrassent de plein de choses, etc. et tout. Et ceux pour qui il y a encore de fortes résistances et qui ont encore mis leur richesse dans leur bien matériel, en fait. Et alors que c'est notre travail d'homme, c'est aussi ce travail de dépossession, en fait. Hein. Mais bon, je pense qu'on met toute une vie. C'est un chemin, donc voilà. Voilà, donc... Savoir aussi, peut-être, des fois, ne pas s'accrocher absolument à sa volonté propre. Moi, de plus en plus, j'évite les débats polémiques où il faut absolument convaincre l'autre, je laisse tomber, quoi. Parce que, bon, déjà, d'une, j'ai pas forcément les compétences pour convaincre tout le monde. Et de deux... t'as plus envie, quoi. Donc, on écoute et puis on voit ce qui est bien dans l'autre et on essaye plutôt de rebondir là-dessus. Et finalement, c'est mieux, quoi. Voilà. C'est aussi s'accueillir avec en toute humilité, quoi. La simplicité, c'est ce détachement par rapport au bien matériel, par rapport à sa volonté propre, et c'est aussi savoir que voilà, situer son cœur. Notre vrai trésor, c'est notre cœur, et ça, c'est le Seigneur qui nous le dit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Et ailleurs, dans 2 Colossiens. Bien fait d'un cœur simple et généreux, que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte. Bon, on le sait qu'en fait, chaque fois qu'on donne, en fait, on reçoit aussi, d'une certaine manière. Donc, c'est aussi un chemin d'ascension spirituelle, la simplicité. Et donc là, pour la simplicité, je ne pouvais pas ne pas citer la salutation des vertus de saint François, qu'on connaît tous. Hein. C'est tellement beau, cette prière. « Salut, reine sagesse, que le Seigneur te garde. » Avec ta sœur, sainte et pure simplicité, dame sainte pauvreté, que le Seigneur te garde, avec ta sœur, sainte humilité. Voilà. Il n'a pas écrit énormément de bouquins, saint François, mais tout ce qu'il a écrit, c'est quand même c'est costaud, c'est puissant, c'est vraiment très très beau. Donc ensuite, se garder émerveillé par Dieu. Donc l'émerveillement, ça a quelque chose à voir avec la minorité, effectivement, aussi. Parce que l'émerveillement aussi, c'est une attitude d'action de grâce. Alors pourquoi on peut être dans cette attitude d'émerveillement ? Parce qu'on prend dans ce travail de conversion intérieure, petit à petit, la conscience que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes nous vient de Dieu comme un don. Au même titre qu'on on reçoit de nos frères aussi. Et tout nous est donné par la main du Seigneur, en fait. Voilà. L'émerveillement appelle le don de l'esprit, la libération du cœur. Lorsqu'on prend conscience de ce grand don qu'est la foi, il devient clair que nos biens, qui sont dons de Dieu, doivent être utilisés aux fins voulues par Dieu, et on doit éliminer de nos vies les biens qu'on utilise mal, qui nous éloignent de notre but, qui nous empêchent de vivre l'Évangile. Voilà. Bon, ça, c'est le style de balise qu'on a dans la règle, effectivement, et qu'on peut de temps en temps reprendre. Alors, accueillir la pauvreté évangélique. En fait, quel est ce chemin que François nous propose ? Être pauvre en esprit comme le Christ, donc ça c'est la référence à la béatitude. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Donc, encore une fois, on essaye de mettre l'évangile en pratique. Donc, on reprend les fondamentaux, les béatitudes. Et là, c'est l'anneau qui nous cite une parole de François. Mes très chers frères, le Fils de Dieu était beaucoup plus noble que nous, et cependant, il s'est fait pour nous, il s'est fait pauvre en ce monde. Donc la simplicité évangélique, quel est ce chemin en fait que nous propose François ? Être conscient de la présence de Dieu dans tous les moments et tous les événements. Bon, ça, on le sait. Bon, après, il y a différentes citations, je ne vais peut-être pas toutes les reprendre, hein, mais l'idée, c'était d'essayer d'illustrer avec la parole de Dieu. Dans les biens et les dons reçus, là aussi, tout nous vient de la main du Père, en fait. Réaliser que notre vie entière est un don de Dieu pour mieux découvrir et connaître le Seigneur, lui qui donne à tous la vie, le souffle et le nécessaire, lui en qui nous recevons la vie. Et donc une autre citation, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres. Je pense qu'il y a, dans ce travail de conversion, il y a un grand travail aussi d'attention, de vigilance et de conscience en fait. Conscience de qui on est, déjà là par exemple, est-ce qu'on a conscience de la grâce de nous retrouver tous ensemble ? Voilà. On va faire un arrêt, 2 secondes. Est-ce qu'on a la chance de se retrouver ? Voilà. Est-ce qu'on a conscience de la grâce qui nous est donnée d'être là aujourd'hui réunis ? Alors que bon, on vit chacun avec nos vies superchargées, occupées, j'imagine, même pour ceux qui sont à la retraite, encore plus. Bon, bref, voilà. D'avoir Jean-Claude avec nous, d'être tous ensemble ici. Merci Seigneur, quoi. Merci pour ce cadeau. Merci Seigneur. Voilà. Donc c'est aussi essayer de... Parce que tout nous entraîne à passer à côté de l'essentiel, en fait, quoi. Dans notre vie, c'est la course. Voilà. Voilà. Être libre de toute convoitise, qui est un attachement démesuré au bien matériel, de l'esprit, du cœur et de la volonté. La volonté de vivre d'une façon non compliquée, c'est-à-dire d'embrasser les valeurs et attitudes simples en utilisant nos biens, comme si nous n'en étions pas les gérants, dans un esprit de modération, de générosité et de justice. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans la famille franciscaine, que j'aime beaucoup. Il y a une grande diversité de groupes et de charismes dans la famille franciscaine. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très généreux dans leur engagement pour la justice sociale. Les cercles de silence, c'est né de frère Alain Richard. Richard. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives très généreuses dans le charisme franciscain. Bon, sans parler après de toutes les invitations par rapport au respect de la création, etc. et tout. Et je trouve ça, comme horizon de vie, c'est vraiment passionnant, quoi. Donc, quel moyen pour développer la simplicité évangélique ? Ben, tourner son attention, ses préoccupations vers le Seigneur, marcher à lui dans la certitude de la foi, se mettre complètement à sa disposition, manifester au monde que les vraies valeurs se trouvent dans la foi et la vie évangélique. Bon, ça paraît des évidences, hein, je suis désolé, je vous dis des trucs. C'est le premier étage, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il faut le mettre en. C'est la partition et il faut apprendre à la mettre en musique après, quoi. Voilà, nous libérer de l'esclavage du monde pour le service des autres en présence de Dieu. Voilà, prendre conscience qu'effectivement on est esclave de son péché aussi. Voilà. Donc comme personne vivant l'évangile dans un milieu laïque, les franciscains séculiers ont fait le choix de se libérer de tout désir de possession et de domination. Alors ça, moi, c'est un truc, je me suis dit, mais comment je peux concilier ça avec le travail que je fais ? Parce que moi, en fait, je suis sur un travail où je dois garantir une organisation, si possible, pas trop défaillante, vu que je m'occupe de gens vulnérables. Donc, il vaut mieux que je n'ai pas trop... Bon, voilà. Et donc, sur le poste que j'occupe, en fait, en tant que directeur, je suis censé quand même poser une certaine autorité. Sinon, ça ne peut pas marcher. On a plus de 80 résidents, on a tout un ensemble immobilier... On est plus de 20 salariés, etc. Et tout. Et je me suis dit, mais moi, Seigneur, en fait, tu m'appelles à la vie franciscaine et tu me mets sur un boulot où, en fait, voilà. Et donc, c'est là où je me dis, mais oui, en fait, le truc, c'est que tu m'appelles à servir, en fait. Donc ce qui aurait pu effectivement paraître paradoxal, et tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais non, en fait, je pense qu'effectivement, c'est ma place. Parce que c'est là où je suis au service, en fait. C'est là où je suis vraiment, véritablement au service.
Et de faire preuve d'autorité, c'est aussi un service. Ouais. Ça fonctionne bien.
Ouais. Voilà, donc tout désir de possession, de domination. La pauvreté évangélique n'est pas un non-usage, une non-possession des biens, mais plutôt le bon usage auquel ces biens sont destinés de la part de Dieu. Ça, c'est bien parce que comme la plupart d'entre nous ici, on a une famille, souvent ce qui nous fait peur dans l'idéal évangélique et dans le charisme franciscain, on se dit, mais Seigneur, est-ce que je peux garder la voiture, quoi? Donc, bon, je l'ai dit en plaisantant, mais voilà. Donc, en fait, ça veut dire que il y a vraiment une grâce à recevoir les choses pour en faire bon usage. Et ça, c'est une bénédiction aussi, finalement. Voilà. En vivant son projet de vie chrétienne personnelle, François d'Assise a ouvert l'horizon du vécu évangélique en Église, en fraternité, dans l'humilité et la douceur, à tous ceux que l'Évangile, et je pense que là, j'ai dû oublier la fin, là, sur cette phrase.
C'est ce que l'Évangile attire. L'Évangile attire.
Je pense que c'est ça, ou appelle, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Alors, ensuite, vivre l'Évangile en fraternité. De quoi on cause? Mais de quoi il s'agit? Alors, d'abord, on regarde l'article 13 de notre règle. En tout homme, le Père des cieux voit les traits de son Fils, premier-né d'une multitude de frères. De même, les franciscains séculiers accueilleront d'un cœur humble et courtois tout homme comme un don du Seigneur et une image du Christ. Le sens de la fraternité les disposera à considérer avec joie, comme leur égaux, tous les hommes, surtout les plus démunis, pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie dignes de créatures rachetées par le Christ. C'est là où je vous disais que la règle, c'est un véritable bijou, notre règle. Elle est très, très... Moi, je la trouve très, très bien écrite. Elle est très puissante, en fait, parce qu'elle est inspirée aux sources de la parole de Dieu. Voilà. C'est pour ça, là j'ai l'image de, dans toutes nos fraternités en fait, donc il y a un responsable et il y a une assistante ou un assistant spirituel. Chez nous, à Sainte-Claire, c'est Sœur Marie-Joie, que Jean-Claude connaît, une Sœur Clarisse. On a la chance d'avoir une Sœur Clarisse comme assistante spirituelle. Et je sais qu'en conseil on avait parlé parce qu'on a une de nos sœurs qui vient et qui en fait a une situation de vie mais dramatique, compliquée, etc. Et quand on fait, par exemple quand il y a un nouveau qui arrive, on refait un tour de table comme on a fait ce matin. Et donc, Eliane, quand elle prend la parole, ben, ça dure trois quarts d'heure, parce qu'en fait, c'est tellement le bazar dans sa vie que, de toute façon, elle ne peut pas résumer ça en cinq minutes. Et donc, on se disait en conseil, mais qu'est-ce qu'on fait de la souffrance de notre sœur et comment on peut l'accueillir? Parce qu'en même temps, on est d'accord, c'est pas non plus un groupe thérapeutique, la fraternité, quoi. C'est aussi une des limites, hein, parfois. Hein. Et en fait, Sœur Marie-Joie, elle nous avait dit, mais... il faut l'accueillir comme une sœur, et en fait... On l'accueille, on sait qu'en fait elle fait un chemin, c'est vachement précieux pour elle. Bon, tout ça pour dire que dans nos fraternités, il y a parfois des moments d'inconfort, mais c'est juste qu'on ne vient pas juste pour rechercher d'être confortable, quoi. Voilà. Et ça nous enseigne aussi. Bon, cet article fait le pont entre la vie spirituelle et la vie dans le monde. Il réfère tout à l'essentiel, découvrir la personne vivante et agissante du Christ. Le Père qui voit en Tom les traits de son Fils nous sert de modèle. Notre recherche du Christ doit passer par le frère. C'est un écho à un autre article de la règle qui propose le frère comme premier lieu où découvrir la personne du Christ. Le premier pas à franchir nous conduit de la découverte de la personne du Christ au frère qui est image du Christ. J'ai pas du tout regardé l'heure. Si je suis trop long, il faut me le dire. Hein. Mais de toute façon, je laisse les feuilles et... J'ai pas du tout regardé, donc vous me dites. Hein. Donc, ce texte nous introduit à la fraternité. Celle-ci représente le lien qui unit chaque frère aux autres. Ce lien nous pousse à considérer avec joie tous les hommes comme égaux, tout spécialement les plus petits pour lesquels ils chercheront à créer des conditions de vie dignes. La fraternité ouvre sur le monde. Elle est posée comme une préfiguration du monde à venir. Nous avons donc d'un côté le frère qui est à l'image du Christ, et de l'autre la fraternité qui est préfiguration du monde à venir. Le lien essentiel entre les deux mondes spirituel et social, c'est le frère et la fraternité. Et ça, en fait, moi je le mesure aussi. Quand on parle de fraternité, c'est fou l'idéal qu'il y a derrière. Est-ce que les gens ont une aspiration à la fraternité? C'est vraiment... là aussi, c'est un don de Dieu, mais... Beaucoup de gens ont une grande soif, en fait, de fraternité, de cet espace où on s'accueille les uns les autres, où on se respecte les uns les autres, où on s'écoute, où on sait qu'en fait, on est sur le même chemin et qu'en fait, j'aimais bien cette expression, on est encordés. Vous savez, encordés, c'est les gars qui partent en montagne et qui sont attachés l'un à l'autre. Et en fait, c'est vraiment ça, l'image de la fraternité.
Parce voilà. Parce qu'on peut lier la solitude de la société.
Oui. Voilà, bon, après, je reprenais un petit peu le commentaire de l'article. J'aime bien le terme « courtois ». Je trouve ça très chic, d'accueillir les autres de façon courtoise. Bon, c'est dans la règle, donc il faut rester courtois. Voilà. Bon, voilà. Accueillir tout homme comme un don du Seigneur, encore une fois, voilà. De Célano, donc là, c'est François qui nous parle. « Quand tu vois un pauvre, c'est l'image du Seigneur et de sa pauvre mère que tu as sous les yeux. » Et chez les malades, contemple aussi toutes les misères dont il s'est voulu charger pour nous. Alors ça, c'est vrai que ben, tous ceux qui font des métiers de service à la personne, c'est une réalité qu'on peut expérimenter. Enfin, je pense, Marie, tu m'as dit que tu étais infirmière sage-femme. Hein, Bernadette, je crois que tu étais infirmière, toi, non, c'est ça?
Ouais.
Bon, moi, j'étais éducateur à une époque. Je m'occupais d'enfants handicapés mentaux. Bon, c'est dommage, il n'y a pas Daniel. On aurait pu en parler. C'est vraiment, j'ai vécu quelque chose, moi, de presque de l'ordre d'une expérience mystique. Je ne sais pas comment le dire, ça paraît un peu bête, hein, mais au contact des enfants handicapés, lourdement handicapés mentaux, il y avait quelque chose qui irradiait, en fait, qui me parlait vraiment du Seigneur en eux, quoi. Ça, c'est vraiment le sacrement du frère aussi, c'est très, très, très profond, c'est... Et, enfin, je pense qu'il suffit de se mettre au chevet de ses frères et puis c'est des choses et d'ouvrir son cœur. Et si on ouvre son cœur, c'est des choses qu'on ressent, ça, en principe, quoi.
Quelque chose qui irradiait d'eux, tu as dit.
Oui, qui irradiait d'eux, en fait. Ouais. Ben, pour moi, je sentais qu'ils étaient vraiment le sacrement de la présence du Christ, si tu veux.
Quelquefois, avec le secours catholique, on fait des ventes. Des foyers de vie. Et je me dis, Dieu, il ne fait absolument pas la différence entre nous et un handicapé. Nous, on fait une différence, mais lui, il ne voit rien. Ça va un peu dans ce sens-là.
Mais parce que souvent, la première réaction naturelle, c'est la répulsion, si tu veux, ou la peur, ou la crainte, ou les malades, quand tu soignes les malades et que tu n'es pas habitué. En fait, il y a quand même. Bon, c'est naturel, c'est la part naturelle, mais il faut apprendre à l'apprivoiser, quoi. Et ben, voilà, c'est un cadeau. Première lettre aux fidèles, ça c'est un autre texte de François. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et si quelqu'un ne veut ou ne peut aimer son prochain comme lui-même, qu'au moins il n'aille pas lui faire de mal, mais qu'il lui fasse du bien. Donc ça je trouve excellent, François, merci. Donc c'est vraiment, au moins si vous ne pouvez pas lui faire du bien, ne lui faites pas du mal. Donc, c'est là où on voit le côté. C'est vraiment très pragmatique. Voilà, bon. On reconnaît vraiment François comme.
Ouais. Ça rejoint la tradition des différents degrés de l'amour. Ouais. Quand on ne peut pas aimer quelqu'un, on ne lui fait pas de mal.
On ne lui fait pas de mal. Ne fait pas de mal.
Et les personnes handicapées ressentent très facilement tout ça au niveau de la perception de la personne en face, si elle lui veut vraiment du bien ou si elle est là juste pour faire son travail, mais au minima. Et. Moi, les fois où j'ai vu de la violence s'exprimer par des personnes handicapées mentales, c'était ciblé et parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas cet amour, vraiment. Donc, c'était pas par hasard que ça arrivait sur moi qu'ils se trouvent avec le nez cassé, en principe. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, quand on se retrouve face à quelqu'un dément. Et qu'on sait que un mot, simplement, peut déclencher une violence en une fraction de seconde, en plus. Mais c'est vrai que quand on est à l'aise avec eux, ils le savent aussi.
Oui. Il y a une spontanéité qui peut s'installer après, ouais. Alors, notre charisme franciscain, c'est cet appel à la vie spirituelle, bah, qui nous tient tellement à cœur dans la famille de la Sainte Trinité aussi. Donc là, je pense qu'on va tous se retrouver dans ce projet de vie-là. Article 5. Ils chercheront à découvrir la personne vivante et agissante du Christ dans leurs frères, dans la Sainte Écriture, dans l'Église, dans la liturgie, dans la vie eucharistique. Ils seront inspirés et orientés par cette foi qui faisait écrire à Saint François « En ce monde, je ne vois rien sensiblement du très haut Fils de Dieu, sinon son très saint corps et son sang. » Alors, découvrir la personne vivante et agissante du Christ. Donc la règle là va nous indiquer des lieux privilégiés. Donc comme on l'a vu, c'est dans nos frères et dans nos frères et sœurs. Nous avons le Christ pour frère. On l'a vu tout à l'heure. Nous sommes frères pour l'amour du Christ. Ils s'aimaient l'un l'autre d'une affection profonde. Chacun rendait service à l'autre et le nourrissait comme une mère le fait pour son fils unique et chéri. Un tel amour brûlait en eux qu'il leur semblait facile de mourir, non seulement par amour du Christ, mais même pour le salut de l'âme ou du corps de leurs frères. Donc ça, je ne sais plus dans quel bouquin de la bibliothèque franciscaine je l'ai trouvé ça. Bon, c'est évident que ce que tu disais ce matin, Jean-Claude, cet élan populaire des premiers temps autour de Saint François, c'était vraiment ça en fait. C'était un élan de vie fraternelle et évangélique, un enthousiasme qui était débordant et qui fait qu'effectivement, en 2-3 ans, ils sont passés de 10 à 3000 et puis à 5000, etc. C'est vraiment l'explosion de la charité en fait.
C'est la légende des trois compagnons.
Ah, ok, super. Merci François. À la lumière de la Sainte Trinité, François a saisi que toute relation humaine réussie, créatrice, suppose ce don total de soi, cet accueil respectueux de l'autre, cet échange confiant, cette réciprocité vitale, cette interdépendance mutuelle, cette communion dans la différence. C'est souvent à travers les autres que nous voyons le Christ vivant et agissant dans nos vies. Nos parents en ont été des témoins. Notre conjoint, nos enfants, dans l'amour que nous avons partagé, les frères et sœurs de notre fraternité, de notre groupe, de nos équipes, les hommes et les femmes de bonne volonté qui font grandir le royaume, les membres de notre communauté paroissiale, nos amis, nos proches, des figures impressionnantes, Saint Jean-Paul II, Sainte Mère Thérésa, toutes personnes qui nous font découvrir par leur vie que le Christ n'est pas mort, qu'il continue d'agir par l'amour et qu'il veille sur son royaume. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combats. Hein, parce que dans ce travail de conversion, il y a toute la question du combat spirituel. Mais déjà, reconnaître déjà humblement, modestement, toutes ces sources de grâce-là, qui sont autant d'inspiration, ben c'est déjà un chemin de vie, quoi. Il y a de quoi remplir une vie d'amour, quoi. Bon, bien sûr, Matthieu, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Les frères et les sœurs que Dieu nous a donnés sont un signe de son amour, un présage vivant de cet amour. Alors, la vie spirituelle, elle s'exprime dans nos frères et sœurs, elle s'exprime aussi dans l'Église. On sait que François avait un grand amour des Églises. Souvent, les franciscains sont un peu maçons. Je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien rebâtir les églises, les murs, remonter. Ça vient de l'origine, ça vient du patron, fondateur. François exprime dans la prière suivante l'ampleur et l'équilibre de son regard de foi. Le Seigneur me donna une si grande foi aux églises que j'exprimais par la prière toute simple. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les églises du monde entier, et nous te bénissons d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. Bon, c'est une prière qu'on connaît bien, hein, qu'on dit souvent, ça. Donc,
si peu.
Si peu.
C'est l'héritage de François.
C'est indépassable.
La prière la plus simple, chaque fois qu'on commence, on la connaît bien, bien sûr.
Ouais. Une autre citation de François, mais bon, je ne vais peut-être pas lire toutes les citations. Tous ceux qui sont dans la Sainte Église catholique et apostolique veulent servir le Seigneur Dieu. Humblement, nous les prions et supplions, nous tous, frères, mineurs inutiles, de persévérer tous ensemble dans la vraie foi et dans la pénitence, car nul ne peut être sauvé autrement. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie du génie de François et ce qui le rend parfois aussi, c'est nous-mêmes mineurs inutiles. Il se considère comme inutile, en fait. Donc c'est tout sauf l'esprit du monde, en fait. Vous prenez l'esprit du monde et on reprend tout à rebours, et on arrive à quelque chose qui ressemble à l'évangile et à François, en fait. Alors ensuite, le troisième pilier essentiel dans le charisme franciscain, pour la vie spirituelle et que donc on reçoit en Église, c'est bien sûr la vie eucharistique. Bon là, c'est pareil, on est à la famille de la Sainte Trinité. C'est le cœur de ce qu'on partage, quoi. Donc c'est évident que ça résonne tout ce qu'on peut vivre, grâce à Jean-Claude, quoi. Donc François disait dans son testament du très haut Fils de Dieu, je ne vois rien de sensible en ce monde, si ce n'est son corps et son sang très saint. L'Eucharistie est une manifestation visible, sensible, actuelle, permanente du Christ Sauveur. C'est pourquoi François voit dans l'Eucharistie la réalisation de sa promesse « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est ce que... Je ne sais plus si tu nous le disais ce matin ou hier soir, peut-être hier soir dans l'introduction, quand tu disais « Les gens se déclarent parfois chrétiens, mais pas pratiquants ». Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce n'est se nourrir du sacrement du Christ, sinon on est chrétien, on est un idéologue peut-être, on a des idées, mais...
Moi je crois que c'est une parole très 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 forte, celle-là, que je ne vois rien sinon que le corps et le sang du Christ qui est donc offert. Je ne vois rien du Christ. C'est extraordinaire quand même ça, que François dit ça. Je vois rien du Christ. Et donc d'une certaine façon, ils seront visibles là, uniquement dans au moment. Dans le corps et le sang du Christ, au moment de l'Eucharistie. Et en dehors, il dit, c'est comme si la parole ne disait pas le Christ. C'est comme si la charité ne le disait pas. Mais que François dit à un certain moment, c'est je vois rien vraiment, concrètement, sensiblement, que vraiment l'Eucharistie. Quoi. Ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on vit, est-ce que paroisse, est-ce que les gens vivent cette réalité de ne rien voir qu'à ce moment-là, on voit le Christ dans son esprit, il est là, dans cette réalité très concrète. Quoi. François, là, je trouve une parole qui m'a toujours beaucoup... Je ne vois rien dans ce monde. Il n'y a rien de sensible, quoi. Sinon, cette réalité-là. Je trouve que c'est une parole très, 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 très forte.
Voilà, célébrer l'Eucharistie, c'est d'abord croire et proclamer publiquement que Jésus est vivant. Un vivant qui, aujourd'hui, convoque, rassemble ses frères et sœurs pour faire mémoire de lui. Par ce repas, le Seigneur se rend présent à notre mémoire, à notre intelligence et à notre cœur. François y trouve la nourriture quotidienne de sa foi. Célébrer l'Eucharistie, c'est vivre l'aujourd'hui de Jésus qui sauve. François écrit souvent que dans l'Eucharistie, le Seigneur Dieu s'offre à nous comme à des fils, s'abandonne entre nos mains, se donne à nous tout entier. Célébrer l'Eucharistie, c'est lui faire hommage de toute notre vie. François presse ses frères de faire le vide en eux pour accueillir celui qui est tout. Ne gardez rien pour vous, rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Il y a un chant magnifique d'ailleurs sur ces paroles de saint François.
Regardez l'humilité de Dieu.
Oui, c'est ça. Regardez l'humilité de Dieu. Ouais. Célébrer l'Eucharistie, c'est ouvrir tout l'univers créé à la vie. Pour François, dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus vivant prolonge son incarnation. Il pénètre peu à peu au creux de notre humanité pour la pacifier et la réconcilier avec la vie et l'amour du Père. Cette nouvelle présence du Seigneur est la source secrète, féconde, prodigieuse d'une création nouvelle, d'un monde nouveau en gestation. Ça, c'est une citation d'un autre bouquin que j'ai utilisé, qui est génial. Donc, vous connaissez le frère Michel Hubot, je pense, qui est un franciscain. Il écrit, c'est très lumineux lui aussi, tout ce qu'il écrit sur François. Christ, notre bonheur, il y a un de ses bouquins là qui est vraiment génial. Comme l'écrit François, tout ce qu'il y a dans le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre a été pacifié et réconcilié au Dieu Tout-Puissant. Voilà. Alors, je fais la dernière partie ou on arrête? Donc, le dernier rappel par rapport à la vie de la règle, c'est la conversion continue. Donc là, c'est l'article 7 de notre règle dans l'ordre franciscain séculier. Comme frères et sœurs de la pénitence, en raison même de leur vocation, animés du dynamisme de l'Évangile, ils conformeront leur façon de penser et d'agir à celle du Christ par ce changement intérieur radical que l'Évangile appelle conversion. Celle-ci, en raison de la fragilité humaine, est à reprendre tous les jours. Sur ce chemin de renouvellement intérieur, le sacrement de la réconciliation est à la fois signe privilégié de la miséricorde du Père et source de grâce. Bon, en même temps, c'est beau de se dire qu'on n'est jamais arrivé, quoi. Et que ce chemin de conversion, ben, continue, on est pèlerin, hein, on est pèlerin sur ce chemin de conversion et il faut toujours reprendre le travail. Et je crois que ce matin, tu nous as redit la phrase de François, ou hier, je ne sais plus, commençant frère, en fait, c'est très connu. Hein. À la fin de sa vie, en fait, François, à un moment donné, donc quand il va mourir, il se fait reconduire, en fait, à la portion cul, là, au moment où, commençant, nous n'avons, je ne sais pas, même si c'est pas nous n'avons rien fait, ou c'est vraiment. Voilà.
Et là, une fois de plus, le sacrement de la réconciliation, l'Église qui est là, sur ce chemin de renouvellement, de conversion, ça passe par l'Église, une fois de plus, par notre fidélité au sacrement que nous donne l'Église. Ça aussi, c'est dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment le rappeler, quoi. C'est pas une réconciliation humaine qu'on peut se donner les uns les autres, c'est le grand mystère du Christ qui vient nous réconcilier. Et ça, c'est dans l'Église, une fois de plus.
Donc voilà, nous sommes appelés à être ces frères et sœurs de la pénitence. Et pénitents venus d'Assise, ça c'est une expression qui est utilisée par les biographes sur les premiers laïcs et les premiers frères, en fait. Ça a été le premier nom des franciscains. Le mouvement franciscain s'inscrit dans ce mouvement de pénitence, mais c'est ce que tu nous disais, François, tout à l'heure, largement répandu au Moyen-Âge. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que le vrai sens de pénitence, c'est conversion. C'est plus que les pénitences, les mortifications, les austérités. C'est d'abord un mouvement dans lequel on s'engage dans la voie de la conversion. C'est pourquoi le franciscain séculier est aussi un homme et une femme qui s'engagent dans une voie de conversion pour mieux vivre de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Ça, c'est notre leitmotiv. Avec le Christ vivant et agissant en communion d'amour avec Dieu amour, comme membre vivant de l'Église, c'est-à-dire en fidélité avec l'Église, décidé à passer avec le Christ de la mort à la vie en se détournant de la mort pour entrer dans la vie. C'est cela la conversion, retourner son cœur vers Dieu, la vraie source de toute vie, pour vivre de lui et en lui. La conversion, en fait, c'est un appel en raison de notre vocation. C'est seulement à l'intérieur du mystère de l'Église, comme mystère de communion, que se révèle l'identité des fidèles laïcs, leur dignité originelle. Et c'est seulement à l'intérieur de cette dignité que peuvent se définir la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. En fait, je crois que depuis le Concile Vatican II, on a bien entendu cet appel de l'Église à reconsidérer la dignité de la mission des fidèles laïcs, en fait.
Oui, les trois aspects de la montée, le prophétique, royal et sacerdoce.
Le baptême.
Oui, et le baptême.
Oui, on le dit au baptême.
Oui, c'est dit au baptême.
Prêtre, prophète et roi.
Oui. Il y a des passages qu'on peut vraiment relire très souvent dans l'Église, dans le mystère de l'Église. Ces trois aspects fondamentaux qui découlent du baptême.
En fait, on est invité à tout simplement prendre au sérieux notre baptême, quoi.
Exactement.
Et en vivre pleinement. Pour le franciscain séculier, la règle nous invite à vivre en communion avec le Père, par le Christ, dans l'Esprit, dans l'Église communion et plus concrètement dans la fraternité que la règle définit comme signe de l'Église communauté d'amour. Et dans la fraternité, on vit vraiment, on expérimente cet appel à la conversion, parce que des fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des frères et sœurs qui m'agacent. Donc c'est un gros travail intérieur. Donc, je le dis en plaisantant, mais pour vous dire qu'il faut vraiment mettre le doigt là où ça fait mal quand même. Et que la fraternité, c'est pas le monde des bisounours, quoi. C'est pas ça quand même. Voilà. Les frères et sœurs seront guidés par les principes de la règle. Ils feront de la prière et de la contemplation l'âme de leur vie et de leur agir. Ben, en fait, ça, c'est notre charte à la famille de la Sainte Trinité aussi. Hein. Moi, je trouve que ça colle bien aussi, quoi. Donc, ils le font conscient que cet appel a pris une couleur particulière, celle de François et de Claire d'Assise, tout entier tourné vers Dieu. Et cet effort de conversion, il est animé du dynamisme de l'Évangile. Le dynamisme de l'Évangile et pas seulement donc l'acte de notre volonté. Ce qui motive la conversion, c'est l'amour révélé dans l'Évangile et le désir d'en vivre mieux. Le vrai comportement du chrétien réside dans l'imitation du Christ. Au premier commandement, d'aimer son prochain comme soi-même, s'ajoute ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ben, c'est le cœur de l'Évangile. Donner, recevoir, échanger, François a bien perçu la structure trinitaire du mystère de l'homme et de toute relation humaine. À la lumière de la Sainte Trinité, il découvre que l'homme créé à l'image de Dieu est un être de relation qui a besoin d'amour, d'être aimé et d'échanger pour devenir un homme. Ça, c'est très beau quand on peut faire ce parallèle aussi entre justement ce mystère de la Trinité et notre dignité d'être humain en relation, en fait, et appelé à vivre en relation avec nos frères. C'est un sujet de contemplation en tant que tel, quoi.
Et que la réalisation de la traite ne peut se passer que comme ça,
oui.
Dans cette relation trinitaire.
Oui. Ici, François donc établit un lien original entre se convertir et reconnaître Dieu en Jésus-Christ. En faisant allusion à la scène du jugement final dans Matthieu, François explicite ce que signifie pour lui se convertir, reconnaître, adorer et servir Dieu dans la pénitence. Tout simplement, comme l'indique le Christ lui-même, en servant l'homme qui est faim, qui a faim, est nu, est prisonnier et auquel Jésus s'est identifié. Faire pénitence et adorer Dieu, est-ce autre chose que se convertir à l'amour qui aime et sert concrètement tous les hommes? En raison de la fragilité humaine, cet appel est à reprendre tous les jours. Donc la vie franciscaine n'est pas réservée à des parfaits, totalement convertis, mais à des hommes qui veulent avancer ensemble vers Dieu, solidaires dans leur démarche, se refusant à se décourager devant leur fragilité, mais mettant en Dieu leur confiance pour grandir en amour.